Gabriel Piquet, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la parution de Arnold et Rose, un roman graphique qui est paru chez Casterman dans la collection Écriture. Et je trouve que la collection Écriture se prête particulièrement bien à l'histoire, puisque Arnold est un petit garçon dans un village de montagne qui décide, qui trouve sa vocation, celle d'être poète et écrivain. Alors comment vient une histoire comme celle-là dans la tête de Gabriel Piquet ?
Alors, l'histoire, à l'origine, ce qui m'a donné envie de faire ce livre, c'était en fait une motivation assez psychologique. J'avais envie de parler de la construction de soi quand on a reçu une éducation très autoritaire. Je me suis demandé quel serait le rapport à l'autorité en tant qu'adulte quand on avait toujours considéré qu'obéir à un ordre sans se poser la question de son bien fondé était quelque chose d'absolument naturel. Comment on allait s'inscrire dans une vie, dans une situation très difficile d'après-guerre, une vie qui exige de s'inscrire dans la société. Voilà, quel choix on va faire et de quelle nature vont être ces choix. Ça, c'était l'idée, en fait, originale. Et ensuite, je me suis penchée sur Arnold, donc qui a envie d'être écrivain, mais qui a surtout envie de... c'est plutôt une compensation, parce que c'est un garçon fragile, qui est un peu dépossédé de lui-même, puisqu'on ne lui a jamais appris, à cause de son éducation, en fait, à développer sa propre personnalité.
Il faut situer le contexte familial, oui. Outre le contexte historique. Il a un père très autoritaire.
Très autoritaire. Très, très autoritaire. La psychanalyste Alice Miller parlait de la pédagogie noire. Donc, c'est pour dire, c'était vraiment à l'époque une façon d'éduquer les enfants qui pouvait conduire à une abolition du moi presque, vraiment. C'est-à-dire l'enfant obéit. La meilleure chose que vous puissiez dire d'un enfant, c'est il est gentil. C'était le must. Donc cette envie d'être écrivain, c'est plutôt être un écrivain célèbre, c'est un peu différent. C'est-à-dire c'est plutôt une compensation. C'est voilà, je veux exister, j'ai besoin de reconnaissance. Même si, sans doute, il écrit bien, mais c'est pas
grave. Il découvre d'ailleurs sa vocation d'écrire suite, et ça a une portée métaphorique évidente, suite à une maladie qui le pousse, qui l'oblige à une convalescence assez prolongée pendant laquelle, finalement, il se rend compte qu'il ne sera pas comme les autres. Mmh. Et c'est aussi une manière, me semble-t-il, pour lui de marquer sa différence, d'avoir ce projet de devenir écrivain et célèbre.
Oui, parce qu'en plus, il est plus petit. Sa maladie, on peut imaginer qu'il a une sorte de pied beau. Enfin, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Après, une maladie qui l'empêche de grandir comme il faudrait. Donc, c'est un garçon. Il faut qu'il existe, quoi. Donc, il trouve ce moyen-là. Et en plus, il y a cette grande place de la religion catholique. Et il imagine que si Dieu l'a puni, on ne sait pour quelle obscure raison, en lui donnant cette maladie, il y a quand même une contrepartie quelque part. Et cette contrepartie, c'est le don qu'il pense avoir reçu, qui a un don, une grâce dans l'écriture et qui peut l'emmener loin.
Alors que pour son environnement, à cette époque-là, on peut dire que c'est la guerre 40-45 et celle dans laquelle vous situez, ou ça peut être 14-18 aussi
Je pense plutôt 14-18, mais c'est pas... Peut-être j'ai pas été assez explicite, mais je me méfie du trop explicite, parce que j'avais envie que le lecteur fasse ses propres liens, ou pas, d'ailleurs. C'est comme une histoire d'inconscient collectif, que ça renvoie à certaines choses. Par exemple, on peut penser plutôt à l'Allemagne après sa défaite. Par exemple, quand les deux personnages arrivent en ville, une situation économique très, très compliquée, un idéalisme forcené chez beaucoup de jeunes qui, pour compenser ça, faire table rase, etc. Moi, c'est plutôt cette période-là qui m'a inspiré. Mais après, on s'en fiche. Moi, je pense qu'on s'en fiche.
C'est pour ça que je parlais de métaphore. Dans une métaphore d'une situation où la religion catholique est très prégnante, où chacun pense que la vie et les souffrances de la vie vécue a moins d'importance puisqu'il y aura une vie au-delà. Et il y a une double autorité, celle de la religion et celle du père.
Le père est le représentant de Dieu sur Terre. Et ça peut paraître gros dit aujourd'hui, mais c'est vrai que quand on s'intéresse à l'éducation de cette époque, pourquoi aussi on ne se rebelle pas ? On ne se rebelle pas parce qu'il ne fait pas doute dans l'esprit d'un enfant que ce que dit le père, l'ordre qui peut paraître absolument la punition qui peut paraître injuste, mais on ne la remet pas en question, puisque il est l'interprète de ce qu'a décidé Dieu. Enfin, je ne sais pas comment, je ne suis pas très claire, mais vous voyez, enfin, c'est... Donc voilà, mais je trouve que le chemin qui a été fait est fascinant, même si évidemment cette question de l'obéissance, elle est toujours là et qu'elle est très délicate, parce que il faut aussi avoir des règles. Il y a un chemin, bon, après avec Françoise Dolto, etc., dans l'éducation de l'enfant qui a été fait, mais c'est quand même incroyable de voir qu'il y a des générations entières qui ont.
Alors, d'un point de vue aussi métaphorique, est-ce qu'on peut considérer que la guerre, la violence de la guerre, est aussi une manifestation de la soumission à l'autorité, une autre forme d'autorité, celle de défendre la patrie, celle d'obéir aux supérieurs hiérarchiques, oui. Et finalement tout ça va conduire à une révolte.
Mais c'est-à-dire que c'est toujours extrêmement dramatique ce problème de... Je lisais là récemment un livre de Benjamin Stora très très simple qui explique sur la guerre d'Algérie, mais je me disais enfin, c'est quand même hallucinant de voir le nombre, pour des raisons d'autorité, etc., de voir de nombre de jeunes types qui vont quelque part dans un truc absolument infernal où l'inutilité de la chose est tellement flagrante, où on perd sa vie, où on perd la tête, où on ne dort plus après pendant 40 ans pour des histoires, effectivement, de si vous désertez, on vous fusille, mais enfin, c'est quand même. C'est absurde, c'est quand même une question, oui, c'est une question, l'autorité qui est. Oui, le rapport à l'autorité.
Alors, l'autre personnage, c'est Rose, mais Rose est me semble-t-il, le pendant du premier personnage féminin qui apparaît, qui est la sœur d'Arnold, celle qui parle tout le temps.
Oui, mais alors, la sœur d'Arnold, elle est typique, c'est-à-dire que c'est une fille pleine de vie qui parle, qui et puis alors, elle est vraiment, pour le coup, elle est vraiment cassée. C'est quelqu'un qui elle est cassée par son éducation. Rose, oui, elle propose, on va dire que je pense que si elle est une sorte d'anti-Arnold, mais en même temps, ils ont plein de choses en commun. Ils ont leur solitude en commun. La grosse différence, c'est que Arnold est totalement soumis et Rose est abandonnée par son père qui est en plein deuil. Donc, c'est-à-dire qu'il est là, mais il n'est pas là. En fait, il ne s'occupe pas d'elle. Donc, elle a finalement, c'est peut-être une chance dans sa solitude, c'est de ne pas avoir d'être soumise directement à une autorité comme ça.
À l'inverse d'Arnold, qui lui est soumis à son père, elle, la petite Rose, elle est transparente aux yeux de son père.
Elle est complètement transparente. Mais elle a des aspirations, comme elle a perdu sa mère, donc elle est fragilisée. Et quand elle voit, quand elle entend ce petit Arnold à l'école faire un discours sur l'idéalisme, il lui semble que ça colle avec des aspirations qu'elle a. Donc elle est très attirée par ce petit garçon qui est différent des autres. Simplement, chez Arnold, on va s'en rendre compte, c'est un idéalisme refuge en toc. On va s'en rendre compte après. Chez elle, c'est des aspirations. C'est différent.
Alors on s'en rend compte au moment où les deux enfants décident de quitter leur environnement géographique, c'est-à-dire la montagne, le petit village, vivre en retrait, et ils arrivent dans la ville. Et c'est là où on voit la guerre, c'est là où on voit les effets de la guerre, c'est là où on voit aussi la révolution qui commence à gronder.
Oui, il y en a une, donc Rose qui va... La grosse différence, c'est qu'elle va être capable de voir les choses en face, la situation telle qu'elle est, même si elle n'est pas agréable, c'est sûr. Arnold, lui, c'est pas possible, parce que ça contribuerait encore à un effondrement du moi. C'est-à-dire que s'il se rend compte que ses rêves de reconnaissance ne peuvent pas aboutir, c'est plus grave que pour quelqu'un qui est déçu, qui serait déçu de manquer de reconnaissance. C'est-à-dire qu'il s'est construit sur du vent, en fait, puisqu'on lui a jamais appris à se construire lui-même, à s'exprimer. Donc, c'est inenvisageable pour lui de regarder la réalité en face. Elle est trop douloureuse. Voilà la grosse différence.
Et la réalité pour Arnold, pour qu'on comprenne, c'est en fait l'environnement de poète ou de faux poète dans lequel
oui,
il se trouve.
C'est ça. Et puis c'est aussi cette grande violence. Il préfère à la limite être avec ses faux poètes, etc., plutôt que de voir. Par exemple, quand ils arrivent en ville, c'est quand même la ruine tout de suite. Ils se retrouvent au milieu de ruines, etc. Et Arnold, on le voit qui court partout, alors que Rose regarde ce paysage un peu, elle le prend en pleine gueule, si on peut dire. Et lui, il cherche le beau quartier. Et là, quand il trouve le beau quartier, c'est la façon que j'ai trouvée, il trouve ce beau quartier, ben ça y est, il s'est pas trompé. Il s'était bien en ville qu'il fallait aller. La vraie vie était bien là. Parce que quand ils étaient enfants, ils parlaient beaucoup de ça, de la vraie vie qui est en ville. il est dans cette espèce de fuite en avant et puis il est rattrapé par son mode de fonctionnement.
Alors Arnold, lui, sa vocation était d'être poète. Et alors, vous avez choisi, plutôt que de lui inventer, de lui écrire des poèmes, vous avez choisi de sélectionner des poèmes de Rollina, de Maurice Rollina. Alors, c'est parce que vous avez cherché ou c'est parce que vous le connaissiez avant?
Non, c'est parce que j'ai cherché, je ne le connaissais pas. Parce qu'il est vraiment est difficile à connaître. Il est pas, mais il n'est pas connu du tout. Je me sentais pas d'écrire ces poèmes-là. Et parce que je, même à un moment, je cite Villiers de l'Isle-Adam, je pose compliqué. Bon,
mais là, c'était une citation dans le récit. Oui. Tandis que les poèmes que vous attribuez à Arnold.
Oui, il y a écrit Rollina. Mais c'est que.
Vous auriez pu les inventer.
Eh bien, non, je ne me voyais pas. J'avais peur d'être à côté, peut-être trop. Et puis, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'un peu drôle dans cette.
Alors, comment avez-vous trouvé Rollina? Parce que moi, je l'ai trouvé facilement en allant pianoter sur Internet. J'ai trouvé Rollina, mais vous l'avez trouvé comment?
J'ai trouvé dans un livre que je cite dans Biblio de Gustave Guiche, qui s'appelle Au banquet de la vie. Qui raconte, c'est un bouquin qui est vraiment difficile à trouver, vraiment, qui raconte comme ça les débuts d'un écrivain dans les salons, et qui tombe sur ce Rollina, qui est la star du moment, qui vient de sa campagne. Donc c'était ça qui m'avait intéressé parce qu'il y avait ce lien avec Arnold. Mais le truc, c'est que, il fait pas long feu parce que, enfin, il fait long feu, on devrait dire. Oui, je sais quoi. C'est ça. Il fait long feu parce que, en fait, sa campagne lui manque et il voit tellement, c'est un vrai poète. Et donc, il voit que tout ça, c'est faux, les applaudissements. Il voit la vanité, la vanité de tout ça.
Il perd son inspiration, d'ailleurs, c'est cette thématique-là, la campagne contre
la
ville.
Mais c'est ça qui est quand même assez gros chez Arnold, c'est qu'il a toujours voulu aspirer à la vraie vie de la ville. Là, quand il est petit, il dit « la vraie vie n'est pas ici » en regardant sa campagne, mais finalement, c'est sa campagne qui l'inspire.
Alors, Rose, quant à elle, elle rencontre un peintre, et ce peintre est celui qui va lui ouvrir les yeux sur à la fois la vanité d'Arnold et puis la nécessité de montrer la réalité et d'arrêter de se la dissimuler.
Oui, je crois qu'il donne de la, comment dire, comme disait Grotz, il disait, il faut donner de l'air à sa révolte, il faut l'exprimer. Lui, il le faisait par son dessin, comme ça, très. Et en fait, elle a quand même une colère. Depuis qu'elle est petite, depuis la mort de sa mère, elle a été une espèce de révolte, comme quand on est face à un deuil incompréhensible. Bon. Et lui, qui est en colère pour des choses, on va dire, matérielles, enfin des choses, pas matérielles, mais vous voyez, enfin, des choses, voilà, la condition des ouvriers, on va dire, et bien c'est comme si elle se reconnaissait dans cette. Finalement, sa colère pouvait enfin s'accrocher à quelque chose. Alors on pourra dire, ça n'est pas vraiment. Elle, c'est pas son combat, elle épouse le combat d'un autre. Mais en même temps, pour moi, c'est comme s'il lui manquait juste. Ça y est, elle a trouvé son voilà.
Est-ce qu'elle n'a pas aussi trouvé son père dans ce peintre?
Oui, si.
Et que fatalement, elle allait suivre, quelle que soit sa position, sa révolte, son mouvement.
C'est dangereux. C'est pour ça que je voulais éviter toute forme. J'ai essayé d'éviter l'angélisme parce que oui, je crois qu'elle ne serait pas allée. Bon, on peut dire que c'est un extrême, hein, mais je crois qu'au moment où elle s'inscrit dans le mouvement ouvrier, c'est sincère, c'est une lutte qui est à ce moment-là qui est très, qui est justifiée. Après, on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Peut-être qu'elle va se rigidifier dans ça, comme ça a été le cas.
Oui, la fin du livre est ouverte finalement.
Elle est brutale, peut-être un peu trop, mais elle est ouverte, oui.
Alors j'aimerais qu'on évoque le trait, qu'on évoque la partie graphique on a évoqué la partie scénario, j'aimerais qu'on évoque le graphisme. Comment êtes-vous arrivé, comme dans votre premier roman graphique, à choisir cette ligne pure, cette ligne, ces personnages qui sont des silhouettes, qui sont dessinés en ligne claire, en noir et blanc, sauf la couverture?
Mais je crois que je cherche un équilibre entre les formes, justement, les formes humaines, qui sont parfois, qui ressemblent à des fantômes, et qui sont assez. En fait, je cherche un équilibre entre le détail du décor et la forme, une espèce d'harmonie comme ça. Je sais pas comment
certains personnages sont très détaillés, comme le visage du père, la figure de Dieu, et puis à certains moments, ces mêmes personnages deviennent des abstractions presque.
Oui, parce qu'à ce moment-là de l'histoire, il me semble que leur personnalité passe au second plan, ou par exemple dans une foule représentée, par exemple, tous les visages le font, par exemple, quand il y a une révolte, il y a un dessin d'une espèce de manifestation d'ouvriers, où là, tous les visages sont faits, parce qu'il y a une colère, il y a quelque chose, mais dans une foule, est-ce que je me pose la question, je me dis est-ce que ça vaut le coup de trop personnaliser le... Puis après, il y a un plaisir pur du dessin, c'est-à-dire que j'aime entremêler les lignes et trouver un équilibre entre les formes, ça me plaît, ça c'est pur plaisir du dessin.
Oui, dans les paysages urbains notamment, on voit parfois, on a l'impression qu'il y a une ligne qui a été tracée et puis elle construit un peu comme dans ces jeux pour enfants où on part d'un point et puis
oui,
on ne peut pas quitter.
Un trait qu'on lève, dont on lèverait, voilà. Un stylo qu'on... Je lève le stylo. Je gomme aussi.
Alors la dernière question que j'aimerais aborder avec vous, c'est celle des références. Vous avez parlé d'Alice Miller, vous citez en fin de volume une série d'ouvrages que vous avez consultés. Oui. Est-ce que cela veut dire que la création chez vous est quelque chose qui se nourrit d'abord d'un travail de recherche?
Ah oui, avant tout. C'est-à-dire que c'est bizarre, c'est comme s'il fallait que j'apprenne quelque chose Là, ce qui m'a intéressé, c'était vraiment le mode de fonctionnement psychologique. Et je crois que je peux pas, j'arrive pas. Peut-être un jour ça changera. Il faut que j'apprenne en le faisant. Sinon, ça m'intéresse pas. Et là, je me suis prêtée à un jeu dans celui-là. Il y a des phrases. Je me suis intéressée à la biographie de Goebbels. Et il y a des phrases. Par exemple, à la toute fin, quand Arnold rentre dans ce café et qu'il voit ce type qui est en train de, je ne vais pas trop donner de détails, mais qui est en train de faire un discours, ce sont les phrases que je mets, c'est-à-dire ses yeux, on dirait des étoiles, maintenant je sais où va mon chemin, c'est un ordre. Ce sont les mots de Goebbels la première fois qu'il a vu Hitler. Et au début, le discours sur l'idéalisme d'Arnold, c'est aussi le discours qu'a fait Goebbels quand il était jeune, à l'école. Un discours sur... ça, c'est un jeu, je trouve ça intéressant.
Et là, contrairement à Maurice Rollina, vous ne citez pas dans le cours du récit que c'est un extrait, il faut aller jusqu'à la bibliographie.
Mais c'est pas possible, en fait. Non. Parce que si dès le début je mets Goebbels, on va se dire qu'est-ce que c'est que cette histoire. Ça va pas aller.
C'est un effet de chute d'autant plus étonnant parce que quand on lit la bibliographie, on se dit dans le fond, tout ce qu'on a lu prend une dimension supplémentaire, une force supplémentaire.
C'est-à-dire que c'est une fiction, mais je crois c'est une fiction, mais quelqu'un qui un spécialiste lui reconnaîtrait tout à fait ça. Mais c'est marrant ce besoin d'apprendre, c'est vraiment très curieux. Parce que par exemple, pour les enfants de l'envie, je ne savais absolument rien sur les bases. J'avais parlé des enfants issus des unions furtives entre soldats américains et filles du pays, je n'y connaissais rien. Mais c'est quand j'ai appris ça avait existé, alors là, c'était... Voilà.
Et le prochain album, alors, vous savez déjà sur quoi il va porter ou bien vous faites des recherches un peu tous azimuts?
Non, je suis sur un truc, mais c'est un peu, ça va parler de la réalité. Est-ce que la réalité qu'on est-ce qu'on est bien sûr que ce qu'on voit, est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on partage la même réalité? Oui, c'est ça.
Ah oui, ça c'est un beau sujet pour vous, je dirais. Très bien, Gabriel Piquet, je vous remercie pour cet entretien et puis pour ce deuxième album graphique dont je rappelle le titre, Arnold et Rose, paru chez Casterman dans la collection Écriture. Merci Gabriel Piquet.
Merci beaucoup.
Les rencontres d'Edmond Morel.